Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité ce matin est Ludovic Lemoigny, qui est conseiller municipal de Saint-Brieuc, délégué au patrimoine, à l'art, à l'histoire, aux langues et cultures de Bretagne. Et après une longue nuit, eh bien, il nous a rejoint ici en direct au micro de Bretagne 5 Matin. Je l'en remercie. Bonjour.
Némat Darnaul, bonjour à terre toute.
Et voilà, dans les langues de Bretagne, le breton et le gallo. Moi, je vous l'ai fait en français. Voilà. Ludovic Lemoigny, on va parler d'une petite révolution qui se déroule à Saint-Brieuc actuellement. Première ville française à faire, à confectionner un livret qui est à la fois un livret de famille, qui est à la fois français, breton, gallo, livret trilingue. C'est une petite révolution en soi, ça ne se fait pas ailleurs.
Alors, une révolution, effectivement, et une petite révolution. Depuis le début de la conception de ce livret, du travail politique et technique avec les élus, les services de la ville de Saint-Brieuc, j'ai toujours été très transparent sur ce que ce livret serait, dans un premier temps, parce qu'il ne faut pas s'interdire que le livret puisse évoluer dans les années à venir, bien entendu. Là, c'est une première étape, et j'ai toujours été transparent, et ce livret, il est partiellement traduit. Il faut être clair là-dessus. Ce n'est pas un livret complètement traduit comme peut l'être un livret bilingue, comme on peut en trouver à Carhaix ou ailleurs, où là, effectivement, les livrets sont entièrement traduits. Mais là, Saint-Brieuc, on a ce choix politique depuis 3 ans, ce choix politique du trilinguisme, donc de la parité pour le breton et pour le gallo. Ce trilinguisme, il implique des choix, il implique des contraintes, malheureusement. Et la contrainte, c'était qu'on ne pouvait pas faire un livret de famille de 40 pages. Donc, il a fallu le traduire, mais seulement partiellement.
On vous l'a reproché, ça ?
On me le reproche, oui. Alors, j'ai reçu des centaines de messages de soutien, clairement. Des gens qui sont très contents de cette petite évolution. Alors, peut-être pas révolution, du coup, mais évolution, en tout cas. J'ai reçu aussi quelques messages, moi, la mairie de Saint-Brieuc, nous avons reçu des messages de gens mécontents, alors qui estiment que c'est folklorique, que c'est une mesurette, que c'est un recul pour le breton. Alors un recul, il faudra m'expliquer dans le sens où il y a encore 2 jours de ça, le livret de famille briochin, il y avait 0 breton dedans. Là, on a, certes, partiellement, mais on a du breton dedans, donc je vois pas en quoi c'est un recul, je vois pas en quoi le breton perd. Le breton a gagné à Saint-Brieuc, et bon, là on parle du livret de famille, mais il a gagné aussi sur beaucoup d'autres sujets, et le gallo aussi, puisque c'est notre politique, et c'est vrai que on est, à ma connaissance, la seule grande commune de Bretagne à avoir cette politique trilingue, donc ça inclut forcément des contraintes, des essais aussi, parce que concevoir un livret trilingue, c'est unique en France, vous l'avez dit. C'est le premier livret en plus avec du gallo en Bretagne. Donc forcément, il y a des tâtonnements, il y a des choix qui doivent être faits, voilà.
Un livret qui sera forcément évolutif.
Pour moi, il sera évolutif, c'est une première étape, faut le voir comme ça. C'est pas un objet définitif. Tous les 2-3 ans à peu près, on refait le plein de livrets. Rien ne nous empêche, dans 2-3 ans, d'avoir un livret qui sera encore plus complet. Pourquoi pas ?
Là, pour l'instant, c'est vraiment le côté technique et juridique avec ces 40 pages limitatives, on pourrait le dire.
Tout à fait. Après, je peux ajouter qu'il y a quand même ces petites forces, ce livret, mine de rien. Il faut quand même savoir que la plupart des livrets de famille qui sont délivrés en Bretagne le sont à la demande. Donc, c'est-à-dire que dans des villes comme Lorient, etc., ça va être quelques dizaines de livrets qui vont être donnés à des gens donc, qui vont en faire la demande. Principalement quand même des militants, des gens qui parlent déjà éventuellement la langue. Donc accuser le livret briochin d'être folklorique alors qu'il va être quand même distribué à plus d'un millier de foyers par an, donc c'est-à-dire que là pour les 3 ans de mandat qui me restent, c'est 3000 foyers qui vont être touchés, donc autant de pères, de mères, d'enfants qui vont avoir du breton et du gallo à la maison, eux qui n'en avaient pas jusqu'ici, je pense que c'est comme une avancée, ouais.
Voilà, donc c'était aussi le petit coup de gueule ce matin de Ludovic Lemoigny. On parlait de cette politique volontariste de Saint-Brieuc autour des langues de Bretagne, donc du breton et du gallo, ici en terre galaise, puisqu'on parle gallo à Saint-Brieuc essentiellement, même si le breton y a toujours été plus ou moins présent. Il y a eu ce premier geste fort de l'implantation des pancartes d'entrée de ville et de sortie de ville dans les 3 langues, le breton, le gallo, le français.
Oui, parce que comme j'ai dit, donc nous avons cette politique volontariste à Saint-Brieuc, mais elle n'est pas arrivée de nulle part. En fait, c'est une connaissance fine du territoire et de sa sociologie. Saint-Brieuc, c'est une terre où le breton et le gallo se sont de tout temps côtoyés. Aujourd'hui, il y a des bretonnois à Saint-Brieuc, dans le pays de Saint-Brieuc. D'ailleurs, entre guillemets, il y a plus de bretons dans le pays de Saint-Brieuc que dans le pays de Vannes. C'est un petit détail qu'il faut quand même connaître. Et nous avons aussi de très nombreux galaisans. Et tenant compte donc de cette sociologie existante, il fallait forcément que nous travaillions à la fois sur le gallo et sur le breton à Saint-Brieuc. C'était une évidence dès le départ.
On sent depuis quelques années, on va dire, qu'il y a une forme... Alors, je ne sais pas si on peut parler de lutte, de concurrence entre le breton et le gallo. Est-ce que c'est quelque chose qui est dommageable pour les langues ?
C'est dommageable pour nos deux langues, en fait, effectivement. Que s'attaquer au breton ou s'attaquer au gallo, c'est préjudiciable pour les deux, au final. Et alors, heureusement, c'est le fait d'une minorité. Hein. Je pense qu'il faut aussi... faut pas non plus être alarmiste. Hein. C'est le fait d'une minorité. Moi, je constate à Saint-Brieuc, l'ensemble, la majorité des militants travaillent pour l'une ou pour l'autre langue, ou pour les deux langues en même temps. Il faut savoir quand même que beaucoup de galaisans sont aussi des bretonnants. Je connais quelques galaisans qui ont notamment été professeurs à Diwan. C'est dommageable, mais en même temps, je pense qu'il faut passer outre à un moment, il faut avancer. On parle de territoire, de frontières linguistiques. Alors moi, c'est un terme qui me gêne énormément, frontières linguistiques.
Hein. Moi, je parlais de contours géographiques, finalement, des deux langues.
Après, c'est un point de vue personnel. Hein. Moi, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit quand je suis venu ici il y a quelques années, je suis arrivé en Bretagne il y a 6 ans avec un regard neuf sur tout ça. Je ne connaissais pas le breton, je ne connaissais pas le gallo, je ne connaissais même pas ce que c'était la Bretagne. J'en avais entendu parler. J'ai découvert...
Vous avez rattrapé. Hein.
Ah ben, en 6 ans, je pense oui, quand même. J'ai découvert la Bretagne, j'ai découvert que j'étais breton il y a 6 ans. Donc j'ai dû tout apprendre, tout réapprendre, en fait, ce qu'était, qui j'étais réellement. Et pour moi, c'était cette évidence-là, en fait, finalement, de côtoyer dès le départ des bretonnants et des galaisans, et de me dire, ok, bon, bah, j'arrive en Bretagne. En Bretagne, il y a deux langues. Il y a le breton, il y a le gallo. C'est comme ça. Par contre, que dans l'ouest de la Bretagne, on parle le breton uniquement, et le français évidemment, mais ça c'est un autre sujet, mais qu'on parle le breton uniquement, ça me paraît tout à fait aller de soi, je n'ai aucun problème là-dessus. Par contre, pour la partie est, je réfute toute petite guerre en fait entre breton et gallo. Je pense que le breton a sa place partout en Bretagne, puisqu'aujourd'hui on a des écoles d'Iwan ou des écoles bilingues publiques qui sont ouvertes de Rennes jusqu'à Brest, en passant par Carhaix, en passant par... Fougères, etc. Enfin, toutes les communes, en tout cas, de Bretagne. Donc le breton a sa place absolument partout. Mais sur le territoire où le gallo est la langue, on va dire, historique, il a aussi sa place. Les deux langues, en fait, ont leur place. C'est ce choix que nous avons fait à Saint-Brieuc, finalement. Et je pense que des communes comme Lamballe ou d'autres communes comme Rennes, par exemple, aussi, qui malheureusement fait majoritairement le choix du breton. Alors, entendons-nous bien, je ne dis pas malheureusement, parce que le breton, c'est pas bien Rennes. Non. Soyons très clairs, le breton, c'est excellent à Rennes. Surtout que Rennes, aujourd'hui, est une des villes qui comporte le plus de bretons de Bretagne. Donc ce serait dommage que la ville de Rennes ne promeuve pas le breton. Mais le gallo, il y a aussi sa place à part égale, en fait. Mmh. Et comme nous l'avons fait à Saint-Brieuc, alors à Saint-Brieuc, la charte du breton était déjà signée quand je suis arrivé, mais si elle n'avait pas été signée, j'aurais signé la charte du gallo et la charte du breton en même temps. Mmh. Et je ne comprends pas que certaines communes signent la charte du breton, comme Rennes par exemple, et patinent un petit peu, rament un petit peu pour signer la charte du gallo. Ça devrait se faire naturellement.
Alors on voit beaucoup d'attaques vis-à-vis des langues sur les réseaux sociaux. Alors tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux n'est pas parole d'évangile évidemment, mais on voit beaucoup d'attaques des langues, beaucoup de gens qui disent voilà, c'est un combat d'arrière-garde, je sens que je vais encore vous mettre en colère, mais c'est un combat d'arrière-garde, c'est le français aujourd'hui, qu'est-ce que viennent faire finalement les langues régionales à l'aune de la mondialisation? Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là?
Un Français qui vient me dire qu'on ne devrait pas parler le breton en Bretagne, j'ai envie de lui dire, dans ce cas-là, parle anglais. Puisque si on est à l'heure de la mondialisation, le français, une petite langue parlée par 400 millions de personnes dans le monde à tout casser, alors que l'anglais est parlé par plusieurs milliards de personnes, arrêtez le français, ça sert à rien. Non, une langue, c'est l'âme d'un peuple, ou des langues, en l'occurrence, pour la Bretagne. Et c'est peut-être ça, en fait, le premier achoppement, c'est qu'en France, on ne reconnaît pas les peuples. Mmh. On a des peuples en France. La République française est constituée de plusieurs peuples. Le peuple corse, le peuple breton, le peuple basque. Et ces peuples-là ont le droit d'avoir leur âme, d'avoir leur identité, d'avoir leur langue au sein de la République. C'est pas un danger pour la République. Hein.
Oui, c'est souvent perçu comme tel, finalement.
Oui, mais non, du tout. Le vrai danger pour la République, finalement, c'est de vouloir mettre des frontières, en fait, des murs entre nous. Que la République intègre ces peuples, qu'elle les intègre pleinement, avec leur langue, leur culture, leur histoire. Et la République s'en sortira grandie, j'en suis convaincu.
Il n'y a pas d'opposition finalement entre la République, la France, l'État central et les régions françaises.
La seule opposition, c'est celle qu'on s'invente. C'est celle que certains technocrates à Paris s'inventent finalement.
Alors, la Bretagne, bon, c'est une région qui a été un peu amputée, en tout cas de son 5e département. On en a longuement parlé ici. Je connais, voilà, vous arborez. Les auditeurs peuvent pas le voir, mais enfin, ils pourront le voir sur la vidéo. Ce t-shirt Braise 5/5 avec les 5 départements historiques bretons. Est-ce que c'est un point de départ pour aller vers peut-être plus tard ce dont on parle beaucoup actuellement, c'est-à-dire l'autonomie?
C'est un préalable. On peut pas, la Bretagne ne peut pas être autonome si elle n'est pas réunifiée préalablement. C'est incontournable. Et dans le même esprit que l'autonomie, ça va dans le sens de l'histoire. On y arrivera, je n'en doute pas. Le chemin est long, il est difficile. Peut-être qu'il sera plus court qu'on ne l'espère ou qu'on ne le croit, on verra. Soyons optimistes.
Il faut une volonté politique, finalement.
Ah, il faut une volonté politique, mais ça, je crois que c'est ce qui nous manque, en fait. Il y a une volonté populaire. On le voit dans les sondages et les manifestations. Je veux dire, 70% des Bretons, 75% des Bretons sont attachés à leur langue, sont attachés à leur culture, sont attachés à l'intégrité territoriale de la Bretagne, donc avec la Loire-Atlantique.
À leur spécificité, finalement.
À leur spécificité. Par contre, bizarrement, les politiques ne suivent pas. On a une majorité de Bretons qui sont pour toutes ces choses-là, mais les politiques ne suivent pas. Ou alors du bout des lèvres. Moi, quand j'entends un président de région, je ne vais pas me faire des amis là sur ce coup-là, mais quand j'entends un président de région parler d'autonomie aussi mollement qu'il le fait, j'y crois pas. Ça n'avancera pas, c'est pas possible. On ne peut pas aller vers l'autonomie avec quelques belles paroles comme ça.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire finalement? Il faudrait que le président de région, Loïc Chesnais-Girard, peut-être nous écoute-t-il, s'implique plus dans l'autonomie, se fasse un peu plus violence, si vous me permettez le terme.
Complètement, oui. Il faudrait vraiment qu'il se fasse un petit peu plus violence. J'entends parfois des maires, je n'ai pas en citer, je ne voudrais pas me faire du tort, mais le maire d'une grande ville pas loin d'ici, qui a osé devant un préfet lors d'une cérémonie vanter la spécificité bretonne et dire « Attention, entre la France et la Bretagne, il y a des différences. » Un maire quand même qui dit ça. J'aimerais bien que le président de région puisse aussi dire ces choses-là et surtout le montrer concrètement. Aujourd'hui, on en a encore à réclamer des subsides de Paris pour vivre. Que le président de la région prenne les devants et fasse vivre vraiment cette notion de Bretagne, de peuple et d'autonomie.
C'est aussi une question de moyens, vous le dites, Ludovic Lemonic. Ces moyens qui manquent cruellement à la Bretagne, on a des régions fortes en Europe. On cite souvent en exemple la Catalogne, pour ne citer qu'elle. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait aussi qu'il y ait une politique de décentralisation qui soit mieux pensée à Paris et qui donne beaucoup plus d'autonomie aux régions, justement, en matière de financement en particulier.
Effectivement, c'est vrai que quand on voit les richesses qui se créent en Bretagne, qui partent à Paris et ce qui nous revient finalement pour faire vivre, faire tourner notre région, pour développer notre région, c'est peau de chagrin. Je crois qu'on parle de Bretagne à 5, on parle de quelque chose comme 130 milliards de PIB, hein, quelque chose comme ça, je crois. Hein, je n'ai pas les chiffres en tête. Il nous revient peut-être un milliard et demi pour faire vivre la région. C'est incroyable. Le budget d'un pays comme le Pays de Galles, par exemple, est 10 fois plus élevé, 20 fois plus élevé. Il y a un vrai problème.
Donc là, le problème est politique. Alors, ça va nous amener à évoquer aussi un petit peu la grande politique, comme l'on dit. Nouveau gouvernement, le gouvernement Attal. Bon, voilà, on a entendu un peu la feuille de route du président aussi à la télévision avant-hier lors de sa conférence de presse. Est-ce que vous en attendez quelque chose, finalement?
Je peux être tout à fait franc?
Soyez tout à fait franc.
Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Je suis désolé de le dire.
Vous citez Chirac.
C'est vrai, non, mais... Alors, déjà d'une, en tant que breton, honnêtement, ce qui se passe à Paris, ça me... Voilà. tant que ça ne nous ramène rien à nous, la Bretagne, je vois pas d'intérêt. Bon, Paris, c'est Paris. Après, le gouvernement Macron, je n'en pense pas moins. Je suis un homme de gauche, alors je sais qu'aujourd'hui...
Vous êtes militant UDB, hein, je précise.
C'est ça, je suis militant UDB, je suis profondément ancré à gauche. Je sais qu'aujourd'hui, les termes de gauche-droite, ça peut paraître désuet, mais moi j'y tiens. Hein, c'est révélateur de principes, de valeurs. Et aujourd'hui, on a un gouvernement qui a toujours été, mais qui se réaffirme bien de droite. Donc moi, ça me...
Voilà. On a une situation ici en Bretagne, comme partout en France d'ailleurs, mais peut-être on va se concentrer évidemment sur notre région, qui n'est pas simple. On voit aujourd'hui une résurgence de vieilles haines. On a vu ce qui s'est passé à Calac et on vient de voir récemment ce qui a suscité énormément de commentaires sur les réseaux sociaux. Cette une du peuple breton. Alors j'en parle ce matin parce que je le disais à l'instant, vous êtes Ludovic Lemoigny, qui est également militant UDB. Le peuple breton, c'est aussi le magazine de l'UDB, 60 ans aujourd'hui, ce magazine, et cette une avec ce petit garçon métis qui tient à Gwenadu le drapeau breton, qui a suscité tant de commentaires, tant de haine. Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que ça vous a blessé? Est-ce que ça vous a mis en colère?
Surpris? Non. Alors, on ne s'attendait pas à un tel déferlement non plus, honnêtement, pas à ce point-là en tout cas, mais donc pas surpris, pas plus que ça. En colère, oui, très en colère. Ce gamin, ça aurait pu être moi. Enfin, je veux dire, je sais que là, encore une fois, je reprends mon passé, mais je suis né en Seine-et-Marne, hein, vous savez, en région parisienne. Ah, j'ai enfâché beaucoup là des militants bretons. mon nom de famille, c'est Lemoignic, certes, donc un nom bien breton, ancré dans le Morbihan, mais je suis né en Seine-et-Marne, en région parisienne. Je suis arrivé ici il y a 6 ans. Ce petit gamin, ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être moi. Sauf qu'on n'aurait rien dit. J'aurais pas été breton plus que ça aux yeux de certains d'autres, parce que je suis né en région parisienne, mais on n'aurait rien dit. Pourquoi ? Parce que je suis blanc. Il a fallu que ce gamin soit métis pour que tout le monde se déchaîne. C'est complètement hypocrite, finalement.
Et pourtant, la Bretagne est une terre d'accueil. On accueille volontiers ceux qui viennent d'ailleurs. Et on est voyageurs aussi. Hein. C'est pas un cliché, c'est pas une légende. Les Bretons ont toujours aimé découvrir les terres autour d'eux, les pays autour d'eux. Ce déchaînement de violence, il est dû à un climat particulier qu'on a actuellement en France, en Bretagne.
Alors, faut remettre bien les choses dans le contexte. Quand on regarde quand même la provenance des commentaires haineux, ce sont beaucoup de nationalistes français. Très très peu de nationalistes bretons. Quasiment aucun même d'ailleurs. Ce sont énormément de nationalistes français qui ont mis des commentaires racistes. Et aujourd'hui, je sais qu'il existe des groupuscules, voire même des partis entre guillemets d'extrême droite bretons, enfin qui se disent bretons, coucou le PNB. Mais pour moi, tout ça, ce sont des agents de la France, clairement. Enfin, je veux dire, ces gens-là ne font que le jeu de l'extrême droite française. Je sais qu'ils s'en défendent, hein, mais non, c'est l'extrême droite française qui cherche en fait à s'implanter en Bretagne. Ils n'y arrivent pas. Ça fait des décennies que l'extrême droite n'arrive pas à s'installer en Bretagne. Ils n'ont pas d'élus ici. Même à Saint-Brieuc, ils avaient 2 élus au conseil municipal, on les a virés. Il n'y a pas d'élus extrême droite en Bretagne. Donc comme ils voient qu'ils n'arrivent pas à s'implanter, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent du coup de s'immiscer dans le mouvement breton. Mais ils n'y arriveront pas plus. Ils n'y arriveront pas plus.
On voit justement une progression, par exemple, du Rassemblement National en Bretagne à chaque élection. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, en particulier avec les élections à venir, le 9 juin, les européennes? Est-ce que c'est quelque chose qui... Voilà, est-ce que vous suivez attentivement ces choses-là, cette progression-là?
Je la suis, oui, parce que c'est quand même inquiétant. Voir des Bretons qui votent pour un parti d'extrême droite nationaliste français qui s'oppose systématiquement à toute avancée pour la Bretagne... Il y a de quoi se poser des questions, quand même. Et puis, cette montée, elle induit quand même des choses. Vous avez les commentaires pour la une du peuple breton, mais on peut aussi parler à Saint-Brieuc de ce qui s'est passé. Hein. Des tags racistes ville, des collages d'affiches néo-nazis en pleine ville, du jamais vu à Saint-Brieuc, enfin, du jamais vu depuis l'occupation nazie. Des attaques aussi, parce que, bon, j'entends souvent l'extrême droite dire « Oui, mais vous savez... vous nous accusez de mots, mais il n'y a pas d'acte derrière. Inquiétez-vous plutôt du terrorisme. » Mais l'extrême droite aussi, c'est le terrorisme. Quand on voit qu'ils sont quand même capables de fracasser la porte d'un local associatif à Saint-Brieuc, de blesser 3 personnes, et je ne comprends pas que la justice ne bouge pas plus que ça à ce niveau-là. On est quand même face à une attaque d'un local, des blessés, ça a à peine fait une manchette dans le journal.
On en a parlé ici, justement, de cette attaque. Il s'est fondé aussi à Saint-Brieuc un comité de vigilance, de défense aussi.
J'en fais partie.
Et vous en faites partie, c'est là où je voulais en venir. Votre collègue est juste à côté, qu'on ne voit pas à la caméra, qui ne parle pas au micro, mais qui est là. Justement, Ludovic Lemagnic, est-ce qu'il y avait urgence à répondre à ces actes-là?
Oui. Aujourd'hui, l'extrême droite essaye de prendre la rue, clairement. Ils essayent d'être de plus en plus présents, des autocollants, des tags, des attaques. Hein, l'attaque du local, mais il y a aussi l'attaque du festival Solidarité à Saint-Brieuc, qui réunissait des familles. Des militants sont arrivés quand même armés avec des barres de fer, etc., des points américains. Donc il y a ces attaques. Donc oui, il est nécessaire aujourd'hui qu'on réoccupe le terrain en fait face à cette extrême droite. Ouais.
Il y a une inquiétude autour de ça quand même, de cette violence.
Bah, quand on a des blessés et même des tentatives d'assassinat, hein, rappelons le maire quand même de Saint-Brévin-les-Pins. Mmh. Hein, pareil, hein, c'est quelque chose quand même qui n'a pas été suffisamment qualifié à mon sens. Hein, on parle de sa voiture qui a été brûlée. C'est quand même la voiture qui a été brûlée le long de sa maison. Mmh. Sa maison a commencé à brûler avec sa famille dedans. C'est une tentative d'assassinat contre un élu et sa famille. Ce n'est pas anodin. Et tout ça, c'est dû à cette poussée de l'extrême droite, à cette espèce de montée de la haine qui existe aujourd'hui.
Alors, la montée de la haine et de cette extrême droite, on l'impute évidemment à ces groupuscules qui déstabilisent finalement beaucoup de choses et se battent contre les forces de gauche. Est-ce que les forces de gauche, justement, n'ont pas une part de responsabilité, on le dit souvent, en ne s'étant peut-être pas emparés de certains sujets plus sociaux qu'ils ont laissés finalement à l'extrême droite?
Je suis complètement d'accord. Quand la majorité régionale de gauche ferme et ne rouvre pas la ligne de train en centre-Bretagne, c'est tout le Crest-Brest qui est abandonné, qui est laissé à l'extrême droite. Quand la majorité départementale actuelle du conseil départemental des Côtes-d'Armor ferme un collège rural, c'est un territoire qui est abandonné à l'extrême droite.
Le collège de Corlay.
Le collège de Corlay,
on en a parlé beaucoup sur cette antenne. Mmh. Justement, ça laisse de la place. Comment reconquérir cette place? Comment la gauche ou les partis régionalistes comme l'UDB peuvent reconquérir le terrain?
Il faut qu'on sorte un petit peu de nos locaux et de nos villes, parce qu'on est quand même des partis, je pense, assez urbains finalement, et qu'on retourne dans ces campagnes-là, qu'on se les réapproprie et qu'on les aide surtout, qu'on tienne nos promesses. Je reviens sur la ligne Saint-Brieuc-Auray. Elle a été fermée quand même temporairement à l'époque. Je répète un peu les faits. Hein. Elle a été fermée temporairement à l'époque. C'était pour l'agrandissement du pont de la rocade de l'Oudéac. Mmh. Et voilà, on fait les travaux, donc on doit fermer la ligne temporairement le temps de faire les travaux. Avec la promesse à l'époque de rouvrir cette ligne-là. On a mis un bus, on n'a jamais rouvert la ligne. Donc peut-être déjà commencer à tenir les promesses que la gauche fait. Ce serait déjà une première étape.
Avec aujourd'hui des velléités de voies vertes sur des communes limitrophes de la ligne, on pense à Saint-Julien par exemple, ça condamnerait finalement cette ligne de chemin de fer nord-sud ou sud-nord, on va pas faire de priorité, mais c'est aussi des choses qu'il faut essayer de discuter avec les élus, des dossiers qui peuvent être un peu épineux quand même.
Ah, là ça dénote d'un manque de vision globale en fait de la part de la région et des élus locaux aussi. Chaque élu va défendre son petit bout de territoire. Je comprends que le maire d'une petite commune comme Saint-Julien veuille se réapproprier son petit tronçon de chemin de fer et faire une voie verte. Je peux le comprendre. Simplement, il faut voir un petit peu au-delà de Saint-Julien. C'est une ligne qui dessert Saint-Brieuc jusqu'à Auray, qui touche 150 000 habitants. Et notamment plus de 80 000 habitants à peu près dans le Crest-Brèze.
Mmh. Alors le Crest-Brèze, pour nos auditeurs,
c'est Centre-Bretagne, pardon.
C'est Centre-Bretagne. Non, mais c'est très. Voilà, on va garder Crest-Brèze.
Je comprends le maire. Il y a pas tout. Enfin, je comprends aussi les associations qui militent pour ça. Je pense qu'il faut maintenant avoir une vision plus globale des choses, notamment des transports en Bretagne.
Et là aussi, on peut imaginer plus de concertation entre les habitants, la région par exemple. On a souvent l'impression, en tout cas c'est ce qui remonte ici, même vis-à-vis des journalistes, on nous dit, ben oui, souvent on ne consulte pas, on fait des choses, et puis bon voilà, on est un peu devant le fait accompli.
Alors, il y a un manque de consultation des habitants, mais il y a aussi un manque d'implication. Mmh. Je vais revenir sur l'IVA de famille. Je me prends des scutes depuis 3 jours... de la part de gens qui critiquent à juste titre le livret de famille pour le fait qu'il est incomplet dans sa traduction. Chose que je reconnais moi-même depuis le départ, donc je suis très à l'aise avec ça. Ces gens-là, concrètement, Je les ai jamais vus depuis 3 ans. Ça fait 3 ans que je suis élu. Mon numéro de téléphone est public, mon adresse mail est publique. J'habite à Saint-Brieuc, on me croise à Saint-Brieuc. Je les ai jamais vus, tous ces gens-là qui viennent aujourd'hui critiquer. Pourquoi ils ne sont pas venus pendant ces 3 ans pour donner un coup de main pour ce livret de famille, pour faire avancer, pour créer une demande sociale sur le livret de famille ou sur d'autres sujets? Donc, que les élus aillent vers les habitants, oui, il le faut, c'est important. Mais les habitants, peut-être aussi, devraient être un peu plus impliqués sur les dossiers et venir voir les élus. Parce que je parle du livret de famille, mais on peut parler de beaucoup de choses aussi, hein, sur d'autres élus, sur d'autres communes, où les gens, finalement, laissent faire, ne disent rien, et après, ah, c'est pas bien ce que vous avez fait. Il fallait peut-être le dire avant.
Voilà, en tout cas, c'est dit au micro de Bretagne 5. On espère surtout que ce sera entendu. Aujourd'hui, on parle de la langue. Elle prend beaucoup de place, la langue, ou les langues. Je vais bien insister sur les langues. Est-ce que c'est important, justement, que ces langues de Bretagne soient aussi une forme de ciment entre les citoyens bretons, même ceux qui ne parlent pas... moi, par exemple, je ne parle pas breton, je parle un peu gallo. Est-ce que c'est important que ça fasse un petit peu ce ciment entre les habitants de Bretagne?
C'est ce qui nous lie, ouais. C'est en fait, quelqu'un disait, la Bretagne n'a pas de papier. Et finalement, ce que nous avons, c'est une culture, c'est une histoire, et ce sont des langues. Et tout ça, c'est ce qui nous lie. Donc, c'est important de continuer à les défendre, et plus que les défendre, surtout de les faire vivre, de les développer. Aujourd'hui, on a 400 000 locuteurs à peu près du breton et du gallo sur plus de 4 millions d'habitants en Bretagne. Il faut absolument que ce soit plus que ça.
On voit beaucoup de jeunes qui arrivent aux langues, alors là encore, je dis aux langues, qui découvrent, qui ne sont pas forcément bretons. Est-ce que ça fonde un espoir pour la suite?
Oui, je pense que oui. Bah, j'en suis le parfait exemple, hein. On peut me critiquer autant qu'on veut, mais je me suis mis au cours de gallo il y a maintenant plus de 2 ans. Je vais me mettre au cours de breton, je vais suivre la méthode Tadamam pour les jeunes parents, parce qu'on est parents d'une petite fille, que nous allons mettre d'ailleurs à Diwan. Elle avait sa place à l'école Diwan de Saint-Brieuc, bien avant qu'elle soit née. C'était une décision commune avec mon épouse. Donc on va suivre des cours de breton, et notre fille va apprendre le breton. Et donc oui, c'est important, oui.
Voilà, donc c'est un parcours classique des Bretons, finalement, ou de ceux qui sont venus ou revenus en Bretagne. Diwan, c'est important, ce sont les écoles qui enseignent le breton, et je crois qu'il va se passer quelque chose dans quelques jours.
Oui, le 3 février, on se retrouve tous à Saint-Brieuc pour poser une question essentielle. Le département des Côtes-d'Armor parle-t-il toujours le breton? C'est une très très bonne question. Et je voudrais que le 3 février à 14h, on soit des milliers devant la gare de Saint-Brieuc pour manifester, pour poser cette question tous ensemble au département des Côtes-d'Armor.
Voilà la question. Parle-t-on encore breton en Côte-d'Armor? Le 3 février, donc, à Saint-Brieuc, devant la gare, hein, c'est ça
C'est ça, à 14h devant la gare.
Le rassemblement, voilà, il fallait que l'on en parle ce matin. Merci infiniment, Ludovic Lemoynic, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal de Saint-Brieuc, délégué au patrimoine, à l'art, à l'histoire, aux langues et cultures, au pluriel, de Bretagne. Et puis, bien entendu, militant UDB aussi, il fallait le préciser. Merci infiniment d'avoir été avec nous en direct au micro de la matinale de Bretagne 5. Très belle journée.
Avec grand plaisir. Au revoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.